Une vie, une heure, aujourd'hui, John Fante. John Fante, romancier, nouvelliste et scénariste américain, né le 8 avril 1909 à Denver, dans le Colorado, meurt le 8 mai 1983 à Los Angeles, à l'âge de 74 ans. En 1936, son premier roman, La route de Los Angeles, est refusé parce qu'il est trop cru et trop provocant pour l'époque, selon Brice Mathieusson. Les aventures d'Arturo, loser mégalomane et attachant, aspirant à devenir un grand écrivain, se déploient au fil des romans, Demande à la poussière, Rêve de Bunker Hill et La route de Los Angeles. Mais c'est dans Bandini, édité en 1938, que l'on y voit véritablement éclore le personnage d'Arturo. Roman rempli de vie, de rage et d'amour, il confronte le fragile bonheur de l'enfance à l'implosion du couple parental et fait de l'imaginaire le refuge clé de son héros. Une écriture imagée, un voyage savoureux dans l'univers de l'Amérique des années 30. Un portrait proposé aujourd'hui par Lenora Krief et Céline Terce.
I was 20 then. What the hell, I used to say. Take your time, Bondini. You got 10 years to write a book, so take it easy. Get out and learn about life. Walk the streets. That's your trouble, your ignorance of life.
John Fante, son style, son écriture, nerveux. Sec, à l'os, pas de graisse, et beaucoup de colère.
Je pense que je me suis passionné pour John Fante. Ça faisait partie de cette passion de Los Angeles à l'époque, de la découverte de la ville telle qu'elle était en 76, quand je suis arrivé, jusqu'à 84-85, essayant d'imaginer comment était... centre-ville de Los Angeles que Fante décrit si bien, parce qu'il faut bien dire ce qu'il y a quand même, Demande à la poussière, c'est un des trois meilleurs livres sur Los Angeles dans les années 30.
J'ai découvert John Fante dans la fin des années 80, je crois, quand il a commencé à être publié en France. Je me souviens très bien avoir lu Fante quand j'étais au cours Florent, donc je vais avoir, 5 ans. Après, j'ai lu Bandini. J'avais pas lu Mon chien stupide à l'époque. Et je pense que j'ai dû lire à l'époque Rêve de Bunker Hill. Parce que tout est sorti d'un coup. Et bizarrement, il est très connu chez nous. Et pas ailleurs. En tout cas, peut-être en Europe, je sais pas. Mais aux États-Unis, les gens le connaissent pas. C'est pas du tout l'auteur qu'il est en France, quoi.
Je me souviens de certaines scènes de La route de Los Angeles. Le rapport avec les revues... où on voit des femmes moitié nues, comme c'était le cas dans les années 30, et tout ce qu'il en fait de ses revues, parce qu'il a ses femmes aimées, c'est une espèce de harem à domicile, mais de harem de jeunes hommes qui fantasment. Et alors il leur a donné des prénoms à chacune, et à un moment, il se met en colère contre toutes les femmes de son harem, il les déchire, il les met aux toilettes, il tire la chasse d'eau. Et moi, ce que j'aime beaucoup, toujours, 30 ans après l'avoir traduit, c'est ce mélange d'imagination, de désir extrêmement puissant, extrêmement fort, de naïveté et en même temps d'émotion qu'il arrive à créer chez le lecteur. Donc c'est sur une espèce de corde raide entre le ridicule, parce que tout ça est finalement assez grotesque, et en même temps quelque chose de très émouvant. Et je trouve qu'il est un des rares écrivains à réussir ça.
Los Angeles, give me some of you. Los Angeles, come to me the way I came to you. My feet over your streets. You pretty town, I loved you so much. You pretty town, you sad flower in the sand.
John Fante, une soif de revanche. Un documentaire de Lenora Krief, réalisé par Céline Terce. John Fante nous parle de l'intérieur et fait résonner en nous tous ces êtres perdus, mélancoliques, toutes leurs humiliations, leurs contradictions, leurs désirs, toutes ces voix des bas-fonds des États-Unis. Avec une savoureuse autodérision, John Fante n'a jamais raconté qu'une seule histoire, la sienne. Lui, le fils de maçon des Abruzzes, né dans le Colorado en 1909, voulait devenir le plus grand auteur américain de sa génération. Arturo Bandini, son jeune double flamboyant, est un insatisfait. Insatisfait de sa condition d'immigré, de son nom de famille italien, honteux de sa culture traditionnelle et religieuse qui le trahit devant les jolies blondes américaines. Le lecteur s'immisce dans la pensée intime d'un adolescent bouillonnant. Et sous la plume de John Fante, l'ordinaire devient ainsi extraordinaire, troublant, intense et drôle. Décédé en 1983, John Fante ne sera pas parvenu à obtenir de son vivant la reconnaissance littéraire à laquelle il aspirait, et c'est à Charles Bukowski que l'on doit la redécouverte tardive de son œuvre.
J'étais jeune, affamé, ivrogne, essayant d'être un écrivain. J'ai passé le plus clair de mon temps à lire à la bibliothèque de Los Angeles. Et rien de ce que je lisais n'avait de rapport avec moi, ou avec les rues ou les gens autour de moi. Un jour, j'ai sorti un livre, je l'ai ouvert, et c'était ça. Chaque ligne avait sa propre énergie, et était suivie d'une semblable, une sensation de quelque chose de sculpté dans le texte. Voilà enfin un homme qui n'avait pas peur de l'émotion. L'humour et la douleur mélangés avec une superbe simplicité. Le début du livre était un gigantesque miracle pour moi. Je compris bien avant de le terminer qu'il y avait là un homme qui avait changé l'écriture. Le livre était Ask the Dust et l'auteur John Fante. Il allait toute ma vie m'influencer dans mon travail. Charles Bukowski.
Alors voilà Bandini qui s'amène, pas grand mais râblé, fier de ses muscles. J'ai 20 ans, j'ai l'âge de raison, j'ai le droit d'aller écumer les rues en bas pour me chercher une femme. Mon âme est-elle déjà salie? Devrais-je rebrousser chemin? Un ange veille-t-il sur moi? Les prières de ma mère dissipent-elles mes craintes? Les prières de ma mère me tapent-elles sur les nerfs?
John Fante, il avait raison de se plaindre. En tout cas, en tant qu'écrivain. C'est-à-dire qu'il n'a jamais obtenu la reconnaissance à laquelle il avait toujours rêvé. Et il l'a obtenu après la Seconde Guerre mondiale, donc après avoir écrit la plupart de ses livres.
Brice Mathieu-San.
Et il l'a obtenu à la fin des années 70, quand un éditeur de San Francisco, qui s'appelle Black Sparrow, a décidé, sur les conseils de Charles Bukowski, de republier tout John Fante. Et Bukowski n'a pas raconté de mensonges. Ça a, en quelque sorte, légitimé sa propre manière d'écrire. À Bukowski. Il voyait quelqu'un qui n'avait pas peur, comme il le dit, de l'émotion et qui n'avait pas peur de faire part de sa vie et de toutes les tribulations de sa vie. Et finalement, la manière dont écrit Bukowski, c'est très très différent de John Fante, mais c'est aussi extrêmement autobiographique.
I went for a walk through the streets. My God, here I was again, roaming the town. I looked at the faces around me and I knew mine was like theirs. Faces with the blood drained away. Tight faces. Worried. Lost.
La colline, c'est celle que chante Fante dans son livre Ask the Dust. C'est Bunker Hill, une colline qui surplombe le centre-ville, le premier quartier résidentiel de Los Angeles, jadis parsemé de gigantesques villas au style inoubliable, né au Kremlin, victorien dérangé. Dans les années 40 et 50, la colline était tombée en désuétude, et ne faisait plus que le régal des deux seuls directeurs artistiques et metteurs en scène en quête de décors un peu intrigants. C'est là que fut retourné le M de Lozé, et aussi en quatrième vitesse. Philippe Garnier, Libération, jeudi 25 août 1983.
Philippe Garnier, journaliste, a fait connaître John Fante en France et l'a traduit pour la première fois en 1986. C'était « Demande à la poussière ».
C'était l'époque où je jouissais d'une liberté absolument incroyable au journal. Et là, comme j'habitais à Los Angeles depuis seulement très peu de temps, je faisais la découverte de la ville, mais vraiment de fond en comble. Et c'est mon intérêt sur la ville qui m'a fait lire les écrivains de l'époque, etc. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai découvert Fante. Et le truc, c'est que quand j'ai fait l'article, c'était un article de 4 pages, c'était sur Bunker Hill plus que sur Fante. C'est-à-dire que j'utilisais Fante comme le fantôme de Bunker Hill, qui, vous savez, c'est le quartier qu'on voit dans tous les vieux films noirs, etc., où il y avait le funiculaire, qui était à l'époque déjà un quartier décati. Ça avait été un beau quartier, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de grandes maisons victoriennes, où Harold Lloyd habitait, enfin, des comiques et tout ça. Et Fante, c'était le fantôme de Bunker Hill.
Alors, tu déambules sur Bunker Hill en agitant le poing contre le ciel, et je sais ce que tu penses, Bandini. Exactement les mêmes pensées que ton père a eues avant toi. Comme autant de coups de lanière sur ton échine. Comme du feu dans ton crâne que tu n'es pour rien. Parce que c'est bien ça que tu penses, n'est-ce pas? Que tu es né pauvre, fils de paysan misérable, en cavale pour fuir cette pauvreté, fuir ta ville natale dans le Colorado, parce que tu ne voulais plus être pauvre. Et c'est pour cette même raison que tu écumes les bas-fonds de Los Angeles. Parce que tu es pauvre et que tu espères qu'en écrivant un livre, tu deviendras riche. Tu te dis que ceux qui te détestaient là-bas dans le Colorado ne te détesteront plus si tu écris ce livre. T'es un lâche, Bandini. Un traître à ton âme, un menteur dégonflé devant ton Christ en larmes. C'est pour ça que tu écris. Et c'est pour ça qu'il serait nettement préférable que tu crèves.
Je me souviens que Christian Bourgois, ça devait être en 81, m'avait donné en lecture, alors je crois que c'était Bandini et Rêve de Bunker Hill. Et moi, je connaissais pas du tout John Fante, personne ne le connaissait. Hein. Et je me souviens, la semaine suivante, je suis allé voir Christian Bourgois dans son bureau, et je lui ai dit, écoute, c'est absolument extraordinaire, c'est une voix entièrement nouvelle, qui détonne sur tout ce qu'on avait l'habitude de lire dans la littérature américaine. Je me souviens que Christian Bourgois avait décroché son téléphone, avait appelé l'agent qui représentait John Fante, avait dit, eh bien voilà, j'achète toutes les œuvres de John Fante. Et il y a un roman que j'aime beaucoup de lui, c'est Bandini. Bandini se passe, il est très jeune, je sais pas, il a une douzaine d'années, et ça se passe à Boulder, Colorado, si ma mémoire est bonne. Et puis il y a aussi Le Vent de la Jeunesse, qui sont des nouvelles de sa jeunesse catholique, quand il était enfant de cœur, qu'en même temps il était très travaillé par le désir des femmes, et aussi le désir déjà d'écrire, le désir de s'émanciper de sa famille, essayer de devenir un vrai Américain. Il y a déjà cette thématique qui est en place là. C'est-à-dire que lui, John, il est fils d'immigrés qui sont arrivés donc à la fin du 19e siècle aux États-Unis, dans le Colorado, et qui venaient des Abruzzes, donc des paysans des Abruzzes. Et le père a toujours été maçon. Et John a tout de suite eu envie de devenir quelqu'un d'autre que son père. De sortir de la trajectoire à la fois de travail peu payé, mais aussi d'accéder à la culture américaine, c'est-à-dire d'accéder au bien-être, la prospérité, d'accéder aux jolies femmes, aux jolies blondes, non pas simplement des brunes typées, mais aussi des blondes évaporées ou beaucoup plus, entre guillemets, en tout cas selon ses fantasmes, distinguées que les Rushton de famille italienne, qui pour lui semblait un peu trop proche, un peu trop évidente. Et donc il y a ce désir d'altérité, ce désir d'autre chose.
Mais je suis pauvre et mon nom se termine par une voyelle. Alors ils me haïssent, moi et mon père et le père de mon père. Et ils n'aimeraient rien tant que de me faire la peau et de m'humilier encore. Mais à présent ils sont vieux, en train de crever au soleil au milieu de la rue, en pleine chaleur, en pleine poussière. Tandis que moi je suis jeune, plein d'espoir et d'amour pour mon pays et mon époque. Alors quand je te traite de métèque, ce n'est pas mon cœur qui parle, mais cette vieille blessure qui m'élance encore. Et j'ai honte de cette chose terrible que je t'ai faite. Tu peux pas savoir.
Alors il paraît qu'il partageait avec son papa la même passion, la colère. C'est des colériques tous les deux. C'est Joyce Fante qui dit ça. Joyce Fante, c'était la femme de John. Et ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Ils étaient tous les deux furieux tout le temps, frustrés, mécontents de leur vie. Donc pour le père de John, d'être resté maçon. Et John, sa grande obsession, c'est d'accéder au rêve américain, c'est-à-dire d'arriver à, en étant parti de rien, à devenir reconnu en tant que le plus grand écrivain américain. À la limite qu'il le soit vraiment, on ne sait pas, de temps en temps, on se dit, c'est pas si important que ça. L'important, ça serait qu'il soit reconnu en tant que plus grand écrivain américain. Et il est aussi furieux pour plein de choses. Il est furieux contre tout, hein. Il est furieux contre Hollywood, il est furieux contre les riches, il est furieux contre les pauvres. Et ça se sent dans son écriture tout le temps.
Il faisait une chaleur torride sur le pont, le soleil piquait ma nuque. Je me suis faufilé entre les barres du garde-fou jusqu'à des rochers déchiquetés au bord de l'eau. C'était des gros rochers, noircis par les marées hautes successives. Ils gisaient dans un désordre délirant, comme un champ d'iceberg. Brusquement, tout ce qui était à mes pieds s'est mis à bouger, avec les mouvements vifs et clapotants d'êtres rampants. C'étaient des crabes. Ces pierres étaient vivantes et elles grouillaient. Je suis resté figé sur place, pétrifié par la peur. L'un d'eux a pincé lourdement mon pantalon. Je l'ai enlevé de là, puis fermement tenu pendant qu'il se débattait frénétiquement en essayant de me pincer. Il était foutu, impuissant. J'ai pris mon élan et je l'ai lancé contre une pierre.
Elle charrie beaucoup de fantasmes, cette scène des crabes. À la fois Arturo Bandini, mais comme, là pour le coup, comme John Fante, il lisait beaucoup de la philosophie. Il allait à la bibliothèque municipale de Los Angeles, et puis il sortait Nietzsche, Spengler, le déclin de l'Occident, il sortait Schopenhauer, et quelques autres. Et, sans doute, il n'y comprenait pas grand-chose à ce qu'il lisait, mais cette idée de la grandeur, et de la grandeur peut-être germanique, était quelque chose qui le fascinait. On est début des années 30, et il est totalement imprégné par un discours politiquement d'actualité dans les années 30, c'est-à-dire un discours ou une idéologie où rôde en permanence le fantôme du dictateur.
Tout l'après-midi, j'ai descendu des crabes. Jusqu'à ce que mon épaule me fasse mal derrière le pistolet et que mon œil soit irrité par la mire. J'étais le dictateur Bandini, l'homme de fer au pays des crabes. Encore un bain de sang pour le bien de la mère patrie. Ils avaient essayé de me détrôner, ces foutus crabes. Ils avaient eu le culot de fomenter une révolution. Mais j'allais prendre ma revanche. Cette seule pensée me plongeait dans une fureur noire. Ces saletés de crabes avaient mis en doute la puissance de Bandini le surhomme. Quelle mouche les avait donc piqués pour qu'ils soient si stupidement présomptueux ? Eh bien, ils allaient apprendre une leçon qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Ça allait être leur dernière tentative de putsch, bon Dieu. Mes dents grinçaient à cette seule pensée. Une nation de crabes en révolte. Quelle toupée ! Dieu, j'étais fou de rage.
Moi, je lis complètement ce passage-là, toute cette séquence-là, comme une sorte de reflet de ce qui se passait politiquement en Italie, en Allemagne, dans les années 30, mais vu du côté de Los Angeles. Et toute cette séquence est une séquence, pour moi, extrêmement politique, d'une violence absolument ahurissante, et en même temps, évidemment, comique, mais qui frise aussi la camisole de force.
J'ai réuni quelques blessés dans une mare pour tenir une conférence militaire. Il y avait un crabe plein de vie et aux couleurs chatoyantes qui m'a fait penser à une femme. sans doute une princesse, une courageuse crabesse, gravement blessée. L'une de ses pattes était bousillée, un bras pendait piteusement. Ça m'a brisé le cœur. Le cœur serré, je me suis agenouillé parmi les morts et les vivants. J'ai invoqué Dieu dans une prière en lui demandant de me pardonner le plus bestial des crimes pour un surhomme, le meurtre d'une femme.
Her hair spilled over the pillow like a bottle of overturned ink.
It's my problem, baby, too. Mm-hmm. Girl, all of my love, all of my love.
Dans sa brutalité, c'est un auteur comique. C'est un des auteurs qui ont fait le plus rire. Mais en même temps, il y a des choses terribles dans ses livres. Et il n'est jamais aussi brutal que quand il écrit sur lui-même.
À 20 ans ou à 21 ans, il part, il va à Los Angeles, et il écrit son premier livre assez vite, qui s'appelle « La route de Los Angeles », tout de suite refusé par tous les éditeurs parce que le contenu est trop cru pour l'époque. Ça, on est au début des années 30. Et il commence à écrire beaucoup de nouvelles qu'il envoie à un homme célèbre à l'époque dans le milieu littéraire qui s'appelle Mencken. Et Mencken était un écrivain extraordinaire, totalement inconnu en France, qui avait une revue qui était très très prestigieuse, qui s'appelait l'American Mercury. Et le jeune Fante, autour d'une vingtaine d'années, ne cesse d'envoyer des nouvelles à Mencken. Et Mencken lui répond, Mencken l'encourage, en lui disant « Non, je peux pas publier ça quand même, c'est pas tout à fait assez abouti, mais continuez ». Et John Fante continue, et un beau jour, le miracle arrive, il est publié dans l'American Mercury, et tout d'un coup, il commence à entretenir une très longue correspondance avec Mencken, qui sera publiée aux États-Unis et ensuite traduite en France chez Christian Bourgois, qui est l'éditeur de toutes les œuvres de Fante. Et petit à petit, il se met à écrire, de plus en plus.
Mencken n'est pas tellement connu en France, c'était un iconoclaste, disons, anti-religieux, anti-stupide, anti-tout. Bon, il résidait à Baltimore, et pour lui, la grande bataille, c'était contre New York. Toute la littérature, le goût, on disait c'est bien, c'est pas bien, tout ça, c'était New York. Quoi. Et lui, son grand truc, c'était de découvrir des gens dans le désert américain entre les deux côtes, la côte est et la côte ouest, de découvrir des gens comme ça, des voix... Et Fante est un parmi les autres de ces découvertes. C'est intéressant parce que d'un côté, vous avez Fante qui se dévide. Il a cuit. Enfin, c'est comme s'il parlait au mur. Il est tout seul et tout dans sa chambre. Il parle à Mencken. Il lui écrit des lettres de 6 pages. Et Mencken, lui, il avait une correspondance assez soutenue. Il répondait. Et il est toujours poli et tout ça, toujours encourageant.
Cher monsieur Bandini, avec votre permission, je vais enlever les salutations et formules de politesse au début et à la fin de votre longue lettre, et je vais la publier comme nouvelle dans mon magazine. Il me semble que vous avez fait là du bon travail. Je pense que Les Collines Perdues constituerait un titre excellent si joint à mon chèque, sincèrement vôtre, J.C. Acmus. La lettre m'en tombe des mains, tombe en zigzag sur la carpette. Je me lève et je regarde dans la glace. J'ai la bouche grande ouverte. Je vais jusqu'au portrait d'Acmus accroché sur le mur opposé et des doigts je touche sa figure qui me regarde d'un air ferme. J'ouvre la fenêtre et je saute me rouler dans l'herbe brillante qui pousse sur la butte. Mes doigts griffent l'herbe, je mords la terre à pleine bouche et j'arrache les racines d'herbe avec les dents. Et je me mets à chialer. Oh bon Dieu Acmus, comment tu fais ton compte pour être à ce point merveilleux? Comment tu fais? De retour dans ma chambre, je trouve son chèque dans l'enveloppe. Pour $175, je suis riche de nouveau. $175 pour moi, Arturo Bandini, auteur du Petit Chien qui riait et des Collines Perdues. Et me revoilà devant la glace, à montrer le poing d'un air de défi. Regardez cette mâchoire, une mâchoire de grand écrivain. Et ses mains, bonnes gens, visez un peu ses mains. Les mains qui ont créé le Petit Chien qui riait et les Collines Perdues. Et là, brusquement sauvage, l'index accusateur. Quant à toi, Camilla Lopez, je veux te voir, et pas plus tard que ce soir, parce que je veux te dire deux mots, Camilla Lopez. Et je te préviens, Camilla Lopez, c'est Arturo Bandini, l'écrivain qui aura devant toi, rien que ça. Je te prierai de ne pas l'oublier.
Lui-même est dans un tel état de pas savoir qui il est, finalement. C'est-à-dire de ne plus vouloir être fils d'immigré, ne pas encore être un écrivain, ne plus être tout à fait le fils de ses parents, ne pas avoir encore trouvé une place, avoir des désirs absolument monstrueux. Monstrueux, des désirs de devenir le plus grand écrivain d'Amérique. Alors, il a rien écrit du tout pour l'instant. Et en même temps, le désir, un désir sexuel pour les femmes, qui est absolument monstrueux, dont il ne sait pas lui-même quoi faire. Alors qu'il a, et c'est dit assez souvent, une trouille bleue d'aborder une femme. Quant à aller voir les belles de jour, c'est totalement hors de question, il a beaucoup trop peur pour ça. Donc à la fois il joue au macho, qui connaît tout des femmes, et en même temps il se parle beaucoup à lui-même en se disant « Mais Arturo, si tu es le plus grand écrivain du monde, tu ne peux pas vivre sans avoir connu au moins une femme. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Tu as 20 ans et tu n'as toujours pas connu une femme? Mais que fais-tu? Allez, sors !»
Elle m'a passé le bras autour du cou. Elle m'a tiré la tête et m'a enfoncé ses dents dans la lèvre inférieure. Je me suis débattu pour me dégager parce que ça faisait mal. Elle est restée à me regarder regagner l'hôtel, tout sourire, un bras passé par-dessus le dossier du siège. J'ai sorti mon mouchoir pour m'essuyer les lèvres. Le mouchoir avait du sang dessus. J'ai suivi la grisaille du couloir jusqu'à ma chambre. À peine j'ai fermé la porte que tout le désir qui m'avait fait défaut juste un moment auparavant s'est emparé de moi. Il me cognait le crâne et m'élançait dans les doigts. Je me suis jeté sur le lit et j'ai déchiré l'oreiller avec mes mains.
But she was so much more beautiful than I, deeper rooted than I. She made me a stranger unto myself. She was all of those calm nights and tall eucalyptus trees, the desert stars, that land and sky, that fog outside. And I had come there with no purpose.
Le catholicisme fervent qui imprègne toute son œuvre, hein, je pensais Le vin de la jeunesse, toutes ces nouvelles où il est enfant de cœur, où la religion, le rapport à Dieu, qui imprègne complètement la maison et surtout sa mère, les prières qu'on fait en permanence, tout ça, il a été élevé là-dedans, hein, il a été pris dans cette forme de pensée-là. Et en même temps, le fait de communier. Mais pendant qu'il communie, il pense à l'image d'une jeune fille qui est là, et il la voit tout d'un coup nue. Donc la tension est grande dans son esprit entre le désir de pureté, je ne sais pas si il faut dire ça, mais en tout cas de conformité à la religion ambiante, et il voit bien toutes les contradictions dans lesquelles il se retrouve. Et une anecdote par exemple, il a rendez-vous avec une merveilleuse blonde en ville. Il a mis son plus beau costume. Et à un moment, la blonde sort une cigarette. Et évidemment, il se précipite, il met la main dans le fond de sa poche pour chercher son briquet, pour lui donner du feu. Qu'est-ce qu'il trouve au fond de sa poche? Il trouve une gousse d'ail. Parce que sa mère, avant qu'il sorte, lui a mis une gousse d'ail pour lui porter chance dans sa sortie. Et il se retrouve à sortir la gousse d'ail devant cette jeune wasp qui représente pour Arturo Bandini le comble... de ce qu'il a toujours rêvé. Et il sait que la jeune wasp anglo-saxon protestant, va voir la gousse d'ail et va se dire « ce gars-là, peut-être pas ». Et donc, il est furieux contre l'ail, mais pas simplement l'ail. Le symbole de l'ail, c'est évidemment toutes les superstitions, toutes les traditions un peu magiques, familiales, qui viennent des Abruzzes, donc de l'Italie. Et il se retrouve avec ce symbole humiliant pour lui-même, totalement stupide, du milieu d'où il vient.
Comment va votre mère, dit-elle? Je ne sais pas bien, je crois. Pour la première fois, les yeux de Sœur Célia quittèrent ses copies et se posèrent sur Arturo. Quoi dites-vous, je crois? Vous ne savez pas si votre mère va bien. Votre mère est une personne admirable, un être de qualité, elle possède une âme d'ange. À sa connaissance, Arturo et ses frères étaient les seuls élèves non payants de cette école catholique. Les frais de scolarité s'élevaient à 2 dollars par mois et par élève, soit 6 dollars par mois pour lui et ses deux frères, et cette somme n'était jamais payée. Ce statut exceptionnel le tourmentait beaucoup. Les autres payaient, tous les autres sauf lui.
Quand on regarde dans les livres de John Fante, l'importance des femmes, on est quand même dans La maman et la putain, quoi. Bon, la maman qui joue un rôle quand même, alors je dis pas qu'elle est toujours là, mais elle est tellement formatrice, et elle est tellement intériorisée dans le subconscient des alter-ego de John Fante qu'elle est toujours là. Bon, en même temps, la femme est tout le temps l'objet du désir de l'homme. La femme existe dans le regard de l'homme. Quand il est avec ses magazines de charme, c'est quand même fait pour la consommation du regard masculin. C'est vendu en tant que tel, ce sont des objets qui sont comme ça. C'est quelque chose qui est récurrent. C'est-à-dire que la femme fantasmée est une femme sexuée et objet du désir. Presque tout le temps. Je pense à Camilla, par exemple, dans « Demande à la poussière ». C'est la sœur. C'est une sœur. Elle a le même statut que lui. C'est une étrangère, c'est une métèque. Elle est mexicaine, lui, il est italien. Alors, mais les rôles peuvent s'intervertir assez rapidement. Et ce qui est formidable, c'est que dans ces interversions de rôles, entre la sœur, la mère, l'amante possible, quelqu'un qui te méprise, mais quelqu'un que tu désires quand même, il y a tout un jeu de rôles, là, qui se met en place. Et la belle blonde éthérée, Mansion on the Hill, avec la demeure sur la colline, donc avec la position symbolique de classe. Donc l'objet de désir inaccessible, mais qui représente le comble de la réussite, si possible sur un yacht d'ailleurs. Je me souviens très bien dans La route de Los Angeles, quand il est dans la conserverie, il fantasme qu'il y a le yacht qui l'attend, avec la belle blonde qui est là, sur le bateau, qui est déjà là. Et il dit au capitaine, allez, levons l'ancre, et nous partons nous promener. Joyce Fante était blonde.
Il avait connu Joyce à Roseville en 1937 et l'avait épousée quelques mois plus tard contre le gré de la famille qui voyait d'un très mauvais œil pareille union avec un bonarien d'écrivain, rital et catholique de surcroît. John Fante est mort en 1983. Les enfants sont tous mariés et partis depuis longtemps et depuis 5 ans, Joyce vit seule dans la grande maison.
Cinéma, cinéma, 1988.
Politely.
Jeune, il était très poli.
But underneath was a sort of simmering intensity.
Mais il y avait au fond de lui une intensité frémissante qui était fascinante.
Yes.
He looked.
Oui, il y avait de l'agressivité. Il avait l'air dangereux. Comme un jeune Al Pacino.
Carried a knife in his pocket.
L'air de quelqu'un qui a un couteau dans sa poche.
J'écoutais Joyce Fante ce matin dans un documentaire et elle racontait de manière assez drôle que quand elle a rencontré John et que John a commencé à lui faire la cour, elle ne savait jamais si ce qu'il racontait était vrai ou si c'était inventé.
Brice Mathieu-Sang.
Et petit à petit, elle a toujours été sensible à sa manière de raconter des histoires, de broder, de peut-être embobiner, d'enjoliver, d'ajouter des fioritures, de se donner le beau rôle, etc. Et puis tout d'un coup, elle s'est aperçue que c'était exactement la manière dont il procédait quand il écrivait. C'est-à-dire que tout est autobiographique, ou presque, et que tout a été vécu, ou presque, mais que beaucoup de choses ont aussi été inventées, que tout ça est rapporté comme étant arrivé non pas à John Fante, parce que c'est jamais la biographie, pure, mais transposé pour signifier que c'est arrivé à son double, soit Arturo Bandini, soit Henri Molisé. C'est ces deux doubles, bon, et à chacun il a consacré plusieurs livres, et qui sont évidemment des alter-ego, et en même temps qui sont aussi des personnages inventés, qui sont des gens qui ont traversé les mêmes tribulations que lui, qui ont vécu peut-être les mêmes humiliations aussi, et aussi connu les mêmes bonheurs, mais tout ça est transposé.
Il n'y a pas beaucoup d'œuvres comme ça, et en fait, encore une fois, l'œuvre la plus autobiographique, même si elle est très très romancée,
Philippe Garnier.
L'œuvre autobiographique sans excuse, sans s'excuser de faire ça, c'est Bukowski. Et c'est pour ça qu'il a eu une influence sur lui, beaucoup plus que sur l'écriture. Il n'écrit pas du tout pareil, mais par contre, il y a une espèce de truc de romancer leurs expériences personnelles. Et je pense qu'entre Fante et Bukowski, on peut pas trouver un écrivain qui est un peu pareil, qui se bouffe un peu sur lui, quoi, comme ces deux-là.
C'était janvier, il faisait froid et sombre, il pleuvait. Je me traînais à 25 à l'heure sur la route de la côte, la tête passée par la fenêtre, le visage ruisselant d'eau, et le toit en vinyle de ma Porsche 1967, 4 mensualités impayées, l'organisme de crédit gueulait, a bien failli être arraché par la pluie diluvienne quand j'ai enfin bifurqué vers l'océan. Nous habitions Point Dume, une langue de terre qui avançait dans la mer comme un sein dans un film porno, au nord du croissant de la baie de Santa Monica.
Dans la chronologie, je pense qu'il y a eu un Bandini, après il y a eu Demande à la poussière, mais c'est que quand Mon chien stupide est sorti en France, que là ça a déclenché vraiment le truc. C'est-à-dire que les critiques, bien sûr, ils découvraient les livres, etc., et ils écrivaient beaucoup de critiques élogieuses, etc., mais le grand public, ils sont tombés pour le Fante, le père de famille qui veut pas l'être, le scénariste qui veut pas l'être, le mec qui râle tout le temps. En fait, c'est ce Fante-là. Alors ça m'a surpris, par contre. Parce que franchement, on a vu des bouquins de Fante dans les voiries de l'aéroport, quand même, ce qui est quand même assez fou. Donc il y a eu cette ferveur quand même assez dingue pendant quelques années et tout. Et c'est pareil avec les cinéastes. Enfin, je veux dire, la moitié des cinéastes qui voulaient adapter Fante étaient français.
Comme je l'avais prévu par cette soirée de tempête, je me suis engagé dans Bonsall au lieu de Fernhill. Puis j'ai entamé la longue routine désespérée consistant à essayer de trouver ma maison. 10 minutes après, Harriet est arrivée sur la colline. Les phares du break foraient des puits de lumière dans la tempête. Puis ils ont zoomé sur moi et ma voiture garée près de la cabine téléphonique. Elle a klaxonné, sauté du break, puis couru vers moi en imperméable blanc. L'inquiétude écarquillait ses yeux. Tu vas avoir besoin de ça. Elle a brusquement sorti mon calibre 22 de sous son manteau et l'a tendu par la vitre ouverte de la Porsche. Il y a une chose terrible dans la cour.
Quoi ?
Dieu seul le sait, je ne voulais pas de ce sacré revolver. J'ai refusé de le prendre. Elle a tapé du pied. Prends-le, Henri, tu sauveras peut-être la vie. Elle l'a brandi sous mon nez. Merde, qu'y a-t-il ? Je crois que c'est un ours. Où ? Sur la pelouse, sous la fenêtre, dans la cuisine. C'est peut-être un des gosses. Avec de la fourrure, quel genre de fourrure ? De la fourrure d'ours. Il est peut-être mort. Ça respire.
Je suis totalement identifié à Henri Molys, il s'appelle, dans Mon chien stupide.
Yvon Attal, acteur et scénariste, adapte actuellement au cinéma Mon chien stupide de John Fante.
Il s'agit d'un homme qui fait une espèce de crise de la cinquantaine, lui, pas de la quarantaine. Ça veut dire, à l'occasion de la découverte d'un chien dans leur jardin, une famille va se remettre en question, et principalement un homme de 50 ans, écrivain, qui va... On ne va pas remettre sa vie en question, mais on va comprendre que si il n'a plus de projet, s'il ne croit plus dans la vie, s'il n'a plus d'énergie, s'il ne conduit plus de voiture de sport, et son manque de libido aussi d'ailleurs, il attribue tout à ses enfants, il pense que c'est de la faute de sa femme et de ses 4 enfants. Et donc, sa problématique de moi écrivain, ou moi papa, ou moi mari, etc., je suis dans les mêmes problématiques que lui. Ça veut dire j'ai des enfants et parfois... mes enfants prennent sur ma vie d'acteur ou de metteur en scène, ou parfois j'ai l'impression que j'ai dû faire des sacrifices pour eux, parce que j'en ai fait. Et voilà, je me suis totalement identifié à ce personnage. Claude Berry m'a proposé de faire Mon chien stupide il y a 25 ans. Il y a 25 ans, j'ai lu le livre et j'ai pas voulu faire le film parce que je ne me suis pas identifié. Il y a 25 ans, je n'avais pas 3 enfants et 27 ans de vie commune avec la même femme. Donc 25 ans après, j'ai compris le livre, quoi.
C'est quelqu'un qui adorait sa famille d'une certaine manière, mais au niveau quotidien, au niveau superficiel, c'était la guerre. Dans cette interview avec Joyce Fante, on l'a fait se balader un peu autour de la maison, etc. Et elle n'arrêtait pas de pointer. Elle dit oui, alors il écrivait là, après il s'est installé là, puis après il s'est installé là, puis après elle pointait au fond du jardin et elle disait ah, puis il avait une roulotte, ça va. Il avait installé sa roulotte et tout. En fait, c'était pour échapper à sa famille. C'était quelqu'un qui, de toute façon, avait besoin d'avoir des ennemis. Et à la fin, ses ennemis, c'était ses enfants.
Bien sûr qu'il y a de l'aigreur. Mais c'est ça qui est touchant et bouleversant. C'est quelqu'un qui regarde sa vie. C'est quelqu'un aussi qui se donne des excuses. C'est quelqu'un qui pense que s'il n'y arrive plus, et c'est ce que sa femme lui balance dans la gueule à un moment, elle lui dit... si t'écris pas, c'est pas parce que t'as pas de talent, c'est juste que tu veux pas t'y mettre, tu veux pas regarder les choses en face, tu veux pas... Mais je saurais pas dire d'où vient cette colère, je pense que la colère, c'est une difficulté. En tout cas, dans Mon chien stupide, de regarder sa progéniture et de se dire c'est moi ou c'est pas moi, quoi. C'est assez étrange. La manière qu'il a de décrire ses enfants, de se dire parfois qu'ils n'ont rien d'italien ou... Ils sont plutôt germaniques. D'ailleurs, il parle souvent de son père. Je pense qu'il réalisait qu'il était un fils et peut-être pas un père ou je sais pas, il y a quelque chose de ça. En tout cas, il a un rapport à ses enfants, à ses racines, à regarder ce qu'il est devenu, l'Américain qu'il est devenu. Voilà, il y a quelque chose là qui le travaille, quoi.
John Fante and his pitbull Rocco in Malibu vers 1960. Et là, c'est à Malibu, donc c'est l'endroit où se passe Mon chien stupide. Et Fante, il avait une affection particulière pour un type de chien, les pitbulls. C'est marrant parce qu'en face, il a son bébé. À gauche, il est avec le chien. C'est une très grande photo. Et à droite, c'est une beaucoup plus petite photo où il est avec Vicky. C'est sa fille, vers 49.
Nous sommes revenus sur nos pas, stupides entre nous. Sous un feu roulant d'aboiements. Je savais pourquoi je voulais ce chien. J'étais là de la défaite et de l'échec. Je désirais la victoire, mais j'avais 50 ans, et il n'y avait pas de victoire en vue, pas même de bataille, car mes ennemis ne s'intéressaient plus au combat. Stupide était la victoire, les livres que je n'avais pas écrits, les endroits que je n'avais pas vus, la Maserati que je n'avais jamais eue, les femmes qui me faisaient envie, Daniel Darieux, Gina Lollobrigida, Nadia Gray... Stupide incarnait le triomphe sur d'anciens fabricants de pantalons qui avaient mis en pièces mes scénarios jusqu'au jour où le sang avait coulé. Comme mon bien-aimé Rocco, il apaiserait la douleur, panserait les blessures de mes journées interminables, de mon enfance pauvre, de ma jeunesse désespérée, de mon avenir compromis.
C'est un chien qui le venge, quoi. D'abord, c'est un chien qui venge la mort de son premier chien. Alors évidemment, c'est pas une histoire de chien du tout, hein. C'est l'arrivée d'un chien dans une famille qui est prétexte à une remise en question, à un bilan, quoi. Mais comme personne ne veut de ce chien, il s'identifie totalement à ce chien parce qu'il pense que personne veut de lui, quoi. Ce chien pue, il est gros, il est dégueulasse, personne n'en veut, mais voilà, comme il pense qu'il est, ça veut dire il pense lui aussi que plus personne veut de lui, quoi.
Donc c'est vrai que c'est un anti-héros. Et ce qui le rend attachant, pour moi, c'est l'ambivalence. C'est une sorte de schizophrénie galopante entre plein de personnages différents qui cohabitent en lui. Et on passe de l'un à l'autre sans transition. Et ça, à traduire, c'est pas facile parce que tout d'un coup, ça passe du personnage « je suis le plus fort du monde » à « je suis totalement raciste ». Et après, « je suis totalement... dans la détestation de ma famille et surtout de ma mère. » Et après, ça passe à « j'aime pas mon père non plus ». Après, ça passe à « j'adore ma mère, c'est la plus belle femme que j'ai. Quel courage elle a, c'est formidable. » Et après, ça repasse, même dans la même phrase, parfois, à « qu'est-ce qu'elle peut être conne ? Franchement, je veux jamais rencontrer une femme comme ça. » Donc, c'est comme s'il mettait avec une espèce d'hystérie masculine très forte, comme s'il mettait en scène, en permanence, toutes les contradictions de sa propre personnalité. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il est un anti-héros. Alors parfois, il est coupable, il se sent coupable, il se dit « Mais comment est-ce que j'ai pu faire une chose comme ça ?» Mais franchement, mais il est quand même le plus grand. Je suis le plus grand pêcheur.
Chez Fante, il y a quelque chose qui s'incarne, boum, au premier degré, direct, voilà. C'est nuancé dans les sentiments, mais les choses sont caractérisées et incarnées tout de suite.
Il n'aime pas la littérature, Fante. Il n'aime pas la belle littérature. C'est un peu le côté... Je vais pas le comparer à Dostoïevski, mais Dostoïevski non plus n'aime pas la belle littérature, les belles lettres, le bien écrit, la formule qui est écrite avec panache. Il déteste ça. Bon. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains américains qui sont dans ce cas-là, même s'ils n'ont jamais lu Dostoïevski, mais qui sont dans le refus d'une certaine beauté qui leur semble appartenir à l'ancien monde, au vieux monde. Et eux, ce qu'ils voient, c'est une réalité dure, abrupte, cruelle, comme peut l'être l'Amérique, et... où il y a beaucoup de drames, une espèce de struggle for life aussi, hein, de combat perpétuel. Et la littérature doit plutôt être de l'ordre du sport de combat que du bouquet de fleurs. Chez Fante, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est très oral. C'est vrai qu'on entend des voix. Et certainement aussi la voix de Fante. Hein.
My God, here I was again, roaming the town. I looked at the faces around me, and I knew mine was like theirs. Faces with the blood drained away, tight faces, worried, lost. Faces like flowers, torn from their roots and stuffed into a pretty vase. The colors draining fast.
Il y a une chose aussi qu'elle nous avait dit, sa femme, Joyce. Elle a dit, comme vous avez une vision romantique de l'écrivain, enfin de Fante, etc., c'est peut-être une chose difficile à accepter, mais il n'écrivait que quand il en avait un besoin financier. Quand il y avait le loup à la porte. Sinon, il préférait aller jouer au poker avec ses potes ou aller jouer au golf. Et ça, c'est un truc qui est très difficile à accepter pour un Européen. La vocation, le besoin d'écrire, le besoin de s'exprimer, etc. Pour lui, le besoin de s'exprimer, c'est un truc qu'il a eu jeune. Et c'était un truc qu'il voulait se faire un nom.
Et en même temps, il se met aussi à collaborer parce que il écrit un livre ou deux qui marche bien. Il est remarqué par les studios de cinéma à Hollywood et il devient scénariste pour Hollywood. Et ça n'empêche que il a toujours souffert, John Fante. Il dit à des lettres, il avait un très bon ami à qui il a beaucoup écrit toute sa vie, Carey McWilliams. Il lui dit, Hollywood est un sale endroit, it's a bad place. Et c'est la mort pour les écrivains. Donc c'est à la fois, pour Fante, une source d'argent importante, une consécration professionnelle, et en même temps un lieu totalement méprisé. Même s'il a réussi à s'acheter la maison à Malibu, donnant sur la plage, où il a vécu avec sa femme Joyce, et leurs quatre enfants, et leurs chiens, dans des conditions plutôt confortables, il avait une Porsche, il adorait les belles voitures, il avait deux passions dans sa vie, paraît-il, c'était le golf, et une autre qu'on trouve plus logique, le jeu. Et donc Hollywood lui a permis de satisfaire à ses deux passions, auxquelles j'ajouterais sans doute les belles voitures et sans doute les jolies femmes. Mais ça, Joyce, sa femme, évidemment, n'en parle pas.
How did he experience Hollywood?
Son expérience à Hollywood?
Did he really belong to it?
No, no. He experienced it as frustration and,
non, il n'était pas à l'aise. Il se sentait souvent frustré, en colère et déçu.
But I'd like to say that Hollywood makes it possible for many writers to live. What else would they do?
Mais il faut dire que Hollywood faisait vivre les écrivains. Que ferait-ils sinon? Si un écrivain ne peut pas vivre de ses romans, John disait ne pas comprendre pourquoi les gens méprisaient Hollywood. Il était écrivain, que devait-il faire? Ils auraient aimé qu'il travaille comme pompiste ou terrassier. Écrire pour les studios, c'était se prostituer. Lui ne voyait pas ça comme ça. Cependant, il était souvent terriblement déçu et frustré. Mais ce n'était pas la faute de Hollywood. C'était plutôt celle des maisons d'édition. Elles sous-payaient les écrivains.
à mon avis, il y avait ce truc qu'il y avait chez beaucoup de scénaristes qui étaient foncièrement des romanciers, des artistes. Il y avait cette rage, ce ressentiment de devoir aller à l'usine, de devoir aller se vendre. Mais enfin, ils savaient très bien que un boulot comme ça, dans les années 40, il faut quand même réaliser que ça gardait les gens en vie pour écrire leur roman. Enfin, je veux dire, ça n'avait rien de dégradant de travailler pour les studios. C'était quoi l'alternative? C'était d'aller enseigner la littérature. Heureusement qu'il y avait Hollywood, sinon il y aurait la moitié des bouquins, des classiques maintenant, etc., n'auraient jamais été écrits.
On voit Nick, Jim et Dan. Voilà les enfants. En 75, on a l'impression que c'est une bande de hippies qui sont en train de fumer des joints sur les canapés, avec les pieds sur les tables basses, les cheveux longs, en écoutant de la musique.
En rencontrant la fille de Fonte, elle m'a dit qu'elle se souvenait des soirs où il lisait à ses enfants ce qu'il venait d'écrire sur eux. Mais en les démontant, quoi. Donc ils étaient à table et il leur lit ce qu'il a écrit dans la journée en leur lisant à quel point il les défonce dans son livre, quoi. C'était un jeu à la fois parce que je pense qu'il avait envie d'entendre si ça résonnait, si ça avait une qualité, voir si déjà il y avait des critiques et des remarques à faire. Et puis aussi, je pense quand il y avait une espèce de provocation et une déclaration d'amour, puisqu'il y a les deux dans le livre, de ne pas attendre que le livre sorte pour que sa famille le découvre, je trouve que c'est une chose très touchante. C'est comme si tout le monde participait à ce livre et qu'il n'y avait pas de mensonge.
C'est son fils qui dit ça aussi, Dan Fante, qui dit « C'était un père absolument extraordinaire à condition de ne pas être dans la même pièce que lui. » C'était un teigneux qui ne mettait jamais d'eau dans son vin et qui restait sur ses positions et ne voulait jamais démordre de ce qui lui semblait être... pas forcément la vérité, mais la position qu'il défendait. Toute sa vie, ça a été une véritable calamité pour lui-même. Il était incapable de négocier.
En tout cas, mon chien stupide, c'est ce rapport-là qu'il a avec ses enfants. Il a envie qu'il dégage, et en même temps, le jour où la maison est vide, il est dévasté, quoi. D'ailleurs, ses enfants, à la fois, le détestent, mais en même temps, quand il se casse, il y a toujours un... c'est toujours un moment difficile, quoi. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a beaucoup touché dans ce livre, c'est de voir cet homme être capable d'humilier presque un de ses enfants. Et à la minute où il a fait du mal, de masquer même, de faire comme s'il avait pas mal fait. Mais quand les enfants lui renvoient dans la gueule, on sent qu'il les aime, quoi.
C'était quand même un homme assez difficile à vivre. C'était quelqu'un qui sortait beaucoup, qui sortait avec les mecs. Enfin bon, il fallait pas trop l'emmerder. Et quand il sortait avec sa femme, généralement, enfin moi, elle m'a raconté des scènes assez humiliantes. À un moment donné, il devait faire un roman sur les immigrants philippins. Et il traînait sur Temple Street, dans un bar fréquenté par les philippins, etc., etc. Et, je sais pas quoi, il y avait une histoire d'où il y avait mis un rat dans son sac à main, juste pour voir sa réaction, pour amuser la galerie, etc. Enfin bon, mais il y avait toujours ce côté-là. Il y a le côté agressif. Et bon, bah, faut vous dire aussi que elle, c'était une fille de bonne famille, de la famille la plus riche de Roseville, dans un petit patelin près de Fresno, et que lui, c'était l'immigrant. Donc, faire la conquête de la femme la plus riche de Roseville, pour lui, c'était un coup, encore un coup. Quand on l'avait interviewé pour Cinéma, chez elle, dans la maison de Malibu, sur la fin de sa vie, comme il était diabétique et que ça s'est très mal passé pour lui, il est devenu aveugle, on lui a coupé les jambes, enfin, c'était assez atroce. Et pour se redonner un peu de morale, etc., il avait décidé d'écrire un livre.
He tried very hard to overcome it. He tried very, very hard. And but it was the
sa maladie, il a vraiment essayé de la vaincre. Mais le déclin était inévitable. Ça a empiré. Il perdait la vue. Quand il a perdu la vue, il a mal réagi. Il ne s'y attendait pas. Et moi non plus. Un matin, au réveil, je l'ai entendu crier « Faites-moi sortir de ce trou noir ». Je préfère essayer d'oublier ça. Mais il a accepté la situation et a écrit « Rêve de Bunker Hill ». Après s'être adapté à sa cécité, il lui est devenu facile d'écrire. Et il était heureux parce qu'il maîtrisait sa vie. J'étais à ses côtés, il décidait ce qu'il voulait manger, il allait et venait dans la maison, je lui donnais ses cigarettes, ses amis venaient le voir. Ce fut une période heureuse pour nous. Et en plus, il ne pouvait plus m'échapper. Et j'en étais heureuse.
Are the dead restored? The books say no.
Est-ce que les morts reviennent?
The night shouts yes.
Les livres disent que non. La nuit hurle que si.
Moi, j'avais l'opportunité d'aller rendre visite à Fonté, comme Bukowski l'a fait, ou comme certains journalistes l'ont fait, et tout. Et l'idée d'aller trouver quelqu'un sans jambes, aveugle et tout ça, ça me disait rien du tout. Et en fait, je n'ai jamais regretté vraiment de l'avoir rencontré, dans la mesure où je l'aurais rencontré sur un lit et un peu dans le cocon que lui avait réservé Joyce. Par contre, j'ai passé beaucoup de temps dans la maison, quand elle était toute seule dans la maison de Malibu, quand les enfants étaient partis et tout. Et c'était, on pouvait avoir une petite idée de ce qu'était la vie là-bas, quoi. Et encore une fois, jamais rien de tragique, son parcours et tout. C'est une réussite américaine, quand même. Je veux dire, le petit garçon de Colorado, il termine quand même à maison à Malibu avec la piscine. Voilà. Il est arrivé. Bon, il est arrivé grâce au cinéma plus que grâce à la littérature, mais il est arrivé.
I'm already there. It ain't nobody's business. C'était John Fonté, Une soif de revanche. Avec Yvan Attal, Philippe Garnier et Brice Mathieusson. Lecture de Stanislas Mérard, Théo Acola et Jean-François Néolier. Passage extrait de La route de Los Angeles, Bandini, Demande à la poussière et Mon chien stupide. Extrait sonore de Cinéma Cinéma de Philippe Garnier et Claude Ventura. Merci à Dominique Bourgois. Coordination Christine Bernard. Attachée d'émission Pascaline Bonnet et Lily Corner. Prise de son Olivier Dupré et Philippe Mercher. Mixage Alain Jouvert. Un documentaire de Lenora Krief, réalisé par Céline Terce.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de franceculture.fr. Une page préparée, enrichie et élaborée avec amour par Pascaline Bonnet.